Voilà, je voudrais aller avec vous, si vous le voulez bien, nous allons aller dans l'Évangile selon Jean et dans, au chapitre 20e de l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 20 et le verset 19. Voilà, vous y êtes. Jean 20, verset 19. Et nous lisons ceci. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. » Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes dans le soir du premier jour, le premier jour de la résurrection de Jésus. Le Seigneur est sorti du tombeau. On se trouve, ce qu'on pourrait dire, oui, le dimanche, voilà, le dimanche soir, trois jours auparavant, le vendredi, le Seigneur venait d'être crucifié, il a offert sa vie, son corps est placé dans le tombeau et pendant trois jours, son corps, vendredi, samedi, reste au tombeau. Dimanche, bien le matin, il est ressuscité d'entre les morts. Vous connaissez eh bien cela, on l'a chanté tout à l'heure. Gloire au Seigneur, alléluia, il est vainqueur. Et voici que le Seigneur apparaît eh bien, à ses disciples eh bien, qui sont apeurés, mais qui sont quand même réunis. Voilà, ils ont peur, mais ils se sont quand même tous rassemblés, hormis Thomas. Voilà, qui n'était pas là. On ne va pas s'attarder sur cet événement. Et le Seigneur va leur apparaître tel qu'il est dans sa gloire. Et il se fait reconnaître. Il montre eh bien, ses blessures, ses mains qui sont percées, ses côtés, et son côté qui a été percé. Son corps est glorifié. Il n'est plus tuméfié. Il n'est plus lacéré de coups. Mais il est ressuscité. Il est glorifié. Il a vaincu la mort. Alléluia! Il est ressuscité, mais il est à jamais l'agneau de Dieu qui a été immolé, alléluia. Et maintenant, pour l'éternité, il y a quelque chose que l'histoire des hommes, l'histoire de l'univers, rien ne changera. Nous avons auprès de notre Père un avocat, alléluia. Le sauveur du monde, c'est Jésus, alléluia. C'est le Christ le sauveur. Et lorsque Jésus apparaît à ces 10 personnes, ces 10 hommes qui sont là, eh bien, ses premiers mots, vous l'avez remarqué, la paix soit avec vous. Alléluia. Ça veut dire que j'ai vaincu. S'il y a la paix, ça veut dire que la victoire a été remportée. Ça veut dire que la guerre est terminée. Satan, je lui ai écrasé la tête. Alléluia. Les péchés sont pardonnés en mon nom. Amen. Et il y a la promesse maintenant eh bien, d'un avenir meilleur, cette espérance vivante, ce ciel, cette nouvelle création eh bien, qui nous attend et dans laquelle nous entrerons un jour. Mais l'état dans lequel eh bien, sont les disciples eh bien, laisse à désirer. On ne jette pas la pierre à ces hommes, mais ils sont immobiles, ils sont apeurés, il n'y a aucun mouvement, les portes sont fermées, et ils sont dans un état dans lequel, eh bien, un état qui doit changer. Un état qui doit changer. Et Jésus leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais on n'envoie pas des gens qui ne bougent pas. Quelqu'un qui ne bouge pas, et il va souffler sur eux, recevez le Saint-Esprit, et ce souffle va être comme le vent dans les voiles d'un bateau qui va leur permettre eh bien, d'atteindre le but. Quelques temps plus tard, eh bien, 50 jours plus tard, ce sera la Pentecôte, ils seront rassemblés dans cette même chambre haute, ils seront 120, et un vent violent va traverser cette salle et ils seront baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et grâce à l'onction, à ce souffle puissant de l'Esprit, eh bien, ces hommes et ces femmes vont atteindre le but que le Seigneur s'était proposé de leur donner, gagner le monde, les nations, les hommes et les femmes de leur temps jusqu'à présent pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Et le titre de mon message de ce matin, c'est de dire « Atteindre le but par le Saint-Esprit ». Atteindre le but par le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a assigné des buts. Il y a des choses, nous allons le voir, qui sont à un niveau d'ordre général, mais il y a également des choses qui sont dans cet ordre général eh bien, que le Seigneur donne. Il y a des commandements personnels, des directions personnelles où le Seigneur eh bien, veut nous conduire personnellement. Et peut-être que certains se disent, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Où est-ce que tu veux me mener? Nous sommes encore au mois de septembre, ce temps de rentrée, etc. Et peut-être certains se disent, mais où est-ce que, Seigneur, tu veux me conduire? Et comment, si j'ai défini le but eh bien, que je dois atteindre, comment eh bien, puis-je l'atteindre? Et là, il nous est dit eh bien, que le Seigneur souffla sur eux. Alléluia! Il y a eu le souffle de l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui les a menés pour atteindre ce but. Alléluia! Alors, je ne suis pas Marseillais. Il y a des Marseillais ici, hein? Mais on va aller quand même droit au but. Alléluia. Et je voudrais qu'on puisse parler eh bien, du but qu'a atteint le Seigneur Jésus. Le but eh bien, que doivent atteindre eh bien, les disciples du Seigneur que nous sommes. Le but de l'Église est ton but à toi également. Et on va voir eh bien, toutes ces choses ensemble. Tout d'abord, vous dire que le but a été atteint par le Seigneur. Jésus a atteint. Lorsque nous voyons les dernières paroles, vous savez, les dernières paroles de quelqu'un, elles sont significatives quand même. Hein, elles montrent aussi ce qu'ont été sa vie. Et on ne triche pas à ces moments, dans ces moments-là. Hein. Semblerait qu'un homme qui a vécu sans Dieu, je crois que c'est Goethe, eh bien, dans ses derniers moments, il voyait des ténèbres. Et lui, il dédie de la lumière, il réclamait de la lumière. Et Jésus, dans les derniers moments de sa vie, lui, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire, j'ai atteint le but. J'ai accompli l'œuvre que mon Père m'avait donnée à faire. Alléluia. Tous les objectifs que le Père avait commandé à son Fils eh bien, d'accomplir, il les a réalisés. Alléluia. Il a donné sa vie à la croix du calvaire. Sa vie a été comme une offrande pure, parfaite, parce que lui-même eh bien, est sans péché. Vous savez que il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia, on le chante. Jésus est sans péché. Jésus est sans faiblesse par rapport au péché. Il a pu être tenté comme nous de la même manière, mais jamais eh bien, il n'a succombé à quelque tentation que ce soit. Et il est vivant à jamais. Il a été choisi de Dieu. Il a été agréé par Dieu. Et dans sa nature, nous voyons eh bien, une nature parfaite. Nous avons un rédempteur. Dieu s'est fait homme, est venu sur cette terre pour accomplir eh bien, le plan du salut jusqu'à donner sa vie en sacrifice à la croix du calvaire. Alléluia! Ce salut, il ne repose pas sur des hommes, il ne repose pas sur une philosophie, il ne repose pas sur une création ou des spéculations, mais il repose sur Dieu lui-même. Alléluia! Qui a donné son Fils unique Jésus, lequel a établi pour nous devant la face du Père une justice qui nous sauve. C'est son sang qui a coulé. C'est le sang du juste, c'est le sang du pur, c'est le sang du parfait. Et son sang a la capacité de nous purifier, de nous laver de tout péché. Alléluia ! Amen ! Mais ça, c'est glorieux. Amen ! Il y a quelque temps en arrière, lorsque j'étais à Cluses, Baptiste, je ne me souviens plus comment ça s'appelait en face de Cluses. Tu sais, il y a une falaise là, et on doit monter. Comment ça s'appelle ? Saint-Sigismond, c'est pas ça ? Monsieur, voilà. Hein ? Rome. Ah oui, Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Voilà. Et là, il y avait un couple qui vivait. Et il y avait un couple, la dame était ivoirienne. Et lui, ben, c'était un Français, mais qui était ivoirien, lui aussi, blanc, mais ivoirien. Bon, voilà. Il avait été choqué de voir des sacrifices sanglants. Ça l'avait impacté. On lui avait même parlé de choses. Et se poser la question du sacrifice. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient des sacrifices, ces gens ? Je lui ai dit, tu sais, la Bible, elle nous dit que les hommes de la Bible faisaient des sacrifices parce que pour leur péché, il fallait que quelqu'un paye. Alors, on essayait de le faire avec des animaux. On égorgeait un bœuf, on égorgeait un mouton, une chèvre. Mais on répétait ça sans cesse parce que on comprenait que ce n'était pas suffisant, mais on comprenait que notre péché, si on voulait vivre, devait être sanctionné, que quelqu'un meure à notre place. Alors Dieu a donné son agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus de Nazareth. Alléluia. Et il a donné sa vie volontairement afin que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Et ce garçon, cet homme, eh bien, passé par les eaux du baptême. Il a été délivré de toutes ses craintes, de toutes les choses ténébreuses qui le tenaient lié. Jésus, eh bien, est devenu son sauveur. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que Jésus a atteint le but. Posons-nous la question, qu'est-ce que c'est que le contraire de manquer le but, de manquer la cible, de ne pas atteindre l'objectif? Dans la Bible, vous le connaissez tous, ce mot. Le fait de manquer le but, le fait de manquer la cible, ça s'appelle le péché. C'est ça, le péché. C'est lorsque on sort du plan de Dieu, lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Et nous comprenons donc qu'à partir du moment où nous avons accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur, nous désirons tous, eh bien, être conduits par le Saint-Esprit pour réussir notre vie. Comme le Père m'a envoyé, je vous ai aussi envoyé, alléluia. Et pour atteindre l'objectif, pour réussir sa vie, eh bien, nous avons besoin d'être conduits, eh bien, par le Saint-Esprit, alléluia. Et l'Écriture nous dit que Jésus lui-même, il est le Fils de Dieu, mais dans son abaissement, il était pleinement homme. Il s'est dépouillé de sa gloire, nous dit l'Écriture. Et il a paru comme un homme véritable, un homme qui pouvait être fatigué. Et l'Écriture nous dit que cet homme qui était en même temps parfait, parce qu'avec cette relation unique sans péché avec Dieu, était conduit, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le Christ, loin, était conduit par le Saint-Esprit. Vous voulez qu'on le lise ? Ce sont des textes qui sont importants. Et regardez dans Luc au chapitre 4, Luc au chapitre 4 et au verset 16, tandis que le Seigneur commence son ministère public, il est dans la synagogue de Nazareth, et il cite ce texte de l'Écriture dans Ésaïe. Au verset 18, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur, etc. Mais vous avez remarqué ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer, pour guérir, pour proclamer, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais pour cela, il m'a oint, il m'a rempli de son Esprit. Alléluia. Et Jésus est le Christ, c'est-à-dire celui qui n'est pas conduit par la pensée ou l'influence des hommes, mais qui est conduit par la pensée de Dieu. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. Et nous comprenons que c'est pour cette raison que le Seigneur, bien que Fils de Dieu qui s'est fait homme, a tout accompli et a atteint le but parce qu'il a été conduit, missionné, envoyé et rempli par l'Esprit de Dieu. Alléluia! Et nous voulons comprendre, nous qui sommes dans cette nouvelle alliance, que si nous voulons remplir les objectifs que Dieu nous a fixés dans sa grâce, eh bien, nous avons besoin également d'être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option! Ce n'est pas quelque chose qui appartient à un style d'église ou à une mode, mais ce sont les Écritures, alléluia, qui nous le disent. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, vous atteindrez les objectifs, alléluia. Avec Guillaume, on s'est réjouis vendredi après-midi, on a distribué des prospectus dans le quartier du Triolet, on a rencontré des étudiants. Et vous savez, un pentecôtiste, il est heureux lorsqu'il est sur le terrain, parce qu'il parle de Jésus à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et on voit que Dieu nous conduit. La première personne qu'on a rencontrée, écoutez, c'était un étudiant chinois, alors on a parlé en anglais, gloire à Dieu, et ce garçon, il était tout étonné que des chrétiens viennent vers lui, mais il dit, mais en Chine, j'ai connu des chrétiens. J'avais commencé à lire la Bible à l'âge de 15 ans. En Chine. Et nous, on tombe sur un jeune chinois qui a connu des chrétiens en Chine et qui a lu la Bible, la Chine communiste. Mais on dit, Seigneur, tu nous as conduits, alléluia. Mais on lui a parlé du Seigneur. Mais à un moment, je me suis dit, mais on était prêt à prier pour lui. Peut-être qu'on a manqué une occasion, je ne sais pas, non, je ne crois pas. Mais on sentait qu'il y avait l'onction dans cette conversation. Le cœur de ce garçon était touché, alléluia. Et c'est ça, être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia, amen, amen. Gloire à Dieu, savons que Jésus a payé le prix pour être conduit par le Saint-Esprit. La croix dans la vie du Seigneur, ce n'a pas été seulement au moment de Golgotha, mais même déjà dans l'éternité. Me voici, la parole du Fils, pour faire au Dieu ta volonté. à Bethléem, elle est déjà là. La croix, il naît méprisé, il est placé dans, dans la mangeoire, il est rejeté, la croix est déjà présente, afin que ce ne soit pas par ses pensées, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors je me dis que nous aussi, eh bien, nous avons besoin, en tant que chrétiens, eh bien, d'atteindre les buts et d'atteindre les objectifs. Vous savez que, alors Christ, ça veut dire celui qui est conduit par l'Esprit, loin de l'Éternel. Mais vous savez comment le monde a appelé à Antioche pour la première fois les disciples de Jésus ? On les appelait comment ? Pas des crétins. Hein. On les appelait des chrétiens. Pourquoi tu rigoles, Pilar ? Ça, c'est l'humour de la paillade. Hein. Gloire à Dieu. Mais en fait, eh bien, nous aussi, nous avons besoin eh bien, d'être remplis du Saint-Esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Une fois que nous sommes lavés de nos péchés, purifiés, sauvés par grâce, nous devons nous poser cette question que Saul de Tarse a posée au Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Est-ce que vous la posez, cette question ? Je remercie le Seigneur pour le témoignage que notre frère François a pu partager. Une fois rétabli, il n'est pas tombé dans une espèce d'amertume. On a prié pour lui. Le Seigneur l'a consolé, réparé, etc. Maintenant, Seigneur, que je suis rétabli, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je te serve. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on aime tous là. Et atteindre la cible, faire connaître la puissance de... Vous savez, je parlais récemment avec un frère qui a été missionnaire, il nous disait missionnaire, le mot qui a donné missionnaire, c'est aussi le mot qui a donné missile. Missionnaire, missile. Il disait, mais nous, on a une charge explosive en nous. Je disais, Seigneur, bénis-le, qu'il n'explose pas ici. Et il disait, mais oui, il nous a pris cet exemple. C'est-à-dire, vous avez vu le livre des Lamentations de Jérémie ? Vous l'avez lu, le livre des Lamentations de Jérémie ? C'est un livre pour dépressifs. Hein. C'est un livre mais où rien ne va. Hein. Rien ne va. Quand je dis pour dépressifs, on a tous passé des moments durs. Ça a été dit tout à l'heure. Mais vous savez qu'au milieu de ce livre, au chapitre 3 et au verset 22, il y a une détonation. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. « Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. » Alléluia. Et en dépit de tout ce désert spirituel dans lequel il est plongé, cette souffrance, ces malheurs, lui, il peut dire, il y a la bonté de l'Éternel. Et c'est ça qu'on doit amener, mes frères et sœurs. Et c'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, on le connaît tous. Jésus a dit ceci une fois qu'il a triomphé et avant de monter au ciel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez par toutes les nations et faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et nous, nous sommes inscrits dans cette vision. Ne vous posez même pas la question de savoir à quoi vous servez. Vous servez à cela. Votre but, c'est d'atteindre ce monde. Et les uns et les autres, nous devons nous poser la question, mais Seigneur, comment est-ce que je peux eh bien, être conduit ? Comment je peux eh bien, être guidé par toi ? C'est la question que nous devrions nous poser. Mais Seigneur, où est-ce que tu m'envoies ? La Bible nous parle d'un homme de Dieu excellent, s'il en est, c'est l'apôtre Paul. Et il nous est parlé de son questionnement. Regardez, on va aller dans le livre des Actes, au chapitre 16e. Actes, chapitre 16, et au verset 6, les questionnements d'un homme de Dieu. Parfois, on se dit, ah, ces hommes, ils sont extraordinaires, Dieu leur parle, voilà. Mais là, on voit quelqu'un qui tâtonne. Et regardez ce qu'il nous est dit au verset 6. « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Vous avez remarqué que l'apôtre Paul, lui, c'est le missionnaire, par excellence. Cet homme qui était de culture juive, enraciné dans un judaïsme extrêmement légaliste, il rencontre Jésus, il découvre la grâce de Dieu. Lui, il croyait qu'il était sauvé à force de faire des œuvres, à force de plaire à Dieu en faisant des... Et là, il découvre que, malgré tout ça, son cœur est rempli de haine, c'est un pécheur. Et il découvre l'amour de Dieu, et non seulement l'amour de Dieu, mais il découvre qu'on est sauvé par pure grâce. C'est lui qui a tout accompli pour que nous soyons sauvés. Et il entre dans ce plan d'amour. Sa vie est complètement changée, et à partir de ce moment, il se met à prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de Christ. Et ça, c'est indéniable. Il y a un appel dans la vie de Paul, et il va devenir ce missionnaire infatigable. Et il se pose des questions. Où est-ce que je dois aller avec cet appel? Et dans cette période-là, alors il franchit certaines régions, et vous avez vu que les termes sont forts parce que le Saint-Esprit l'empêche d'agir, le Saint-Esprit ne lui permet pas d'entrer dans telle ou telle région. Bref, il ferme les portes. Il ferme les portes. Et tandis qu'il est en train de dormir, Dieu peut lui parler, j'ai envie de dire enfin, Dieu peut lui parler. Et au lieu de fermer toutes ses portes, Dieu enfin lui dit, tac, c'est cette porte qui est ouverte. Selon moi, ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas lui dire avant, mais c'est parce que, on va le voir dans un instant, le cœur de Paul n'était pas encore touché. Vous savez, ces hommes de Dieu, c'est quand même des têtes quand même. Je pense que si l'apôtre Paul n'avait pas été un serviteur de Dieu, avec l'intelligence qu'il avait, il aurait eu les capacités de devenir un homme d'État de premier rang. Membre du Sanhédrin, comme Moïse. Moïse, si Dieu ne l'avait pas attiré à lui, mais en Égypte, il aurait eu certainement de très grandes fonctions. Voyez. Et alors, c'est un homme qui peut-être s'est dit, mais je vais m'appuyer sur mon intelligence et je vais chercher, je vais... Voilà, tac, tac, tac. Sauf que ce n'est pas avec ton intelligence que tu peux comprendre le but à atteindre, Paul. Emmanuel, ce n'est pas avec ton intelligence que tu peux comprendre ça. Souviens-toi de Jésus. Bien que fils, il s'est dépouillé de sa gloire. Et il a été conduit par une seule chose, par le Saint-Esprit. Alléluia. Et moi, j'ai l'impression qu'une fois qu'il s'est couché, Paul, Dieu lui a dit, enfin, c'est bon, tu ne t'excites plus? Tu n'es plus énervé, là? Là, enfin, je peux te parler? Maintenant, tu te reposes? Ben voilà, ça va être en Macédoine. Et il lui propose une vision... Voilà, passe en Macédoine, secours-nous, etc. Vous connaissez la suite. Ils partent, ils se rendent dans la ville de Philippe. Là, ils découvrent un groupe de prière avec une femme qui s'appelle Lydie, qui se convertit. Confirmation, c'est bien là que le Seigneur nous envoie. Là, ça y est, voilà, confirmation. Puis vous vous souvenez ce qui se passe. Une démoniaque qui est libérée d'un démon. Ils sont jetés en prison. Et là, au lieu de se lamenter, ils prient, ils disent, non, Seigneur, tu nous as donné la confirmation. On ne sait pas pourquoi tu es là, pourquoi nous sommes là, Seigneur, mais c'est pour une bonne raison. Tu es en train de nous faire atteindre l'objectif. On est dans la zone d'impact, si je prends le missile. Et vous savez ce qui se passe? Ils prient, ils chantent, et les fondations de la prison s'écroulent, tremblement de terre, tout le monde est libéré. Et il y a le geôlier de la prison qui veut se suicider. Un homme qui a des pensées suicidaires. Et lui, Paul, il comprend. Tu nous as envoyé pour cet homme-là. Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Il était prêt, le message. Hein. Le message, il était prêt. Vous croyez qu'il a découvert là, Paul dans ce... Non, il l'avait dans son cœur. Il savait ce qu'il fallait dire. Mais à qui le dire? Dans la prison, conduit par le Saint-Esprit. C'est là, envers cet homme. Alléluia. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Et on pourrait dire là, Seigneur, merci pour cet homme rempli du Saint-Esprit, parce que tu t'es servi de lui pour amener à la conversion, non seulement cet homme, mais également toute sa famille, parce que dans la nuit même, ils furent tous baptisés. Alléluia! C'est-à-dire que nous aussi, pour atteindre les objectifs divins, que nous connaissons fort bien, le salut. Nous avons besoin, le salut pour les hommes, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Je ne pense pas que Paul avait compris bien que ce serait dans la prison, il ne le savait pas. Mais en réalité, le seul travail qui comptait pour lui-même, eh bien, qui devait se passer dans son cœur, c'est que le Saint-Esprit puisse avoir un impact dans sa vie. Et le Seigneur ne te demande pas de tout savoir à qui tu vas rendre témoignage demain ou après-demain, j'en sais rien. Ça concerne le Seigneur. Mais ce qu'il te demande, c'est que l'Esprit de vérité te conduise toujours. Alléluia. Comment on fait, pasteur? Comment on fait, frère? Eh bien, c'est bien simple. Il faut rechercher l'intimité avec le Seigneur. Il y a quelques temps en arrière, je crois que je l'ai dit déjà, mais je la répète, cette expérience, j'étais avec... comment il s'appelle? Je ne sais pas s'il est là, Manu Batola. Et on distribuait des prospectus dans le quartier, là. Et il me disait, mais comment on fait pour être conduit par le Seigneur et pour être sûr que le Seigneur nous conduit pour parler aux bonnes personnes? Je lui dis, tu sais, il n'y a pas de méthode. En fait, la seule méthode, c'est de se tenir au pied de Jésus. Tu restes dans la présence du Seigneur et c'est lui qui te guide, qui te conduit. Des fois même, tu ne t'en rends même pas compte. Hein. Voilà, et c'est le Seigneur. Et là, je tends un prospectus à une dame qui me dit, mais véritable, à l'arrêt de tram, là, Saint-Bruno, qui me dit, mais vous savez, je ne suis pas venu à la Réunion depuis 3 mois, mais ce soir, j'y vais. Je dis oui, bah, c'est bien. Et en plus, je devais y prêcher le soir. Ben, c'est très bien parce que j'y suis ce soir, j'y prêche. C'est à Richter en plus. Alors gloire à Dieu, alléluia. Et il y a eu toute une œuvre dans cette famille qui a été faite. On a baptisé d'ailleurs Delilah qui était de la famille de cette dame. Gloire au Seigneur, alléluia. Et on a besoin d'être conduit, d'être rempli du Saint-Esprit. Ne cherche pas des méthodes, mais cherche. Certains disent, je cherche le baptême du Saint-Esprit. Ne cherche pas le baptême du Saint-Esprit. Cherche Jésus qui te baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez ce qui nous est dit dans Philippiens au chapitre 4, si vous voulez bien. Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Et regardez les conseils d'un vieux pasteur vers son jeune collègue. Bon, je ne suis pas vieux, hein, Guillaume. Hein. Voilà. Mais ça vaut pour moi aussi. 2 Timothée 2, 21, il nous est dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia ! Et en réalité, tout dépend de cette intimité, de cette relation que nous avons avec le Seigneur. Alléluia ! Et nous sommes conduits, eh bien, ensemble par le Saint-Esprit. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia ! Alors maintenant, l'objectif est un but atteint par l'Église de Christ. L'Église a un but à atteindre. Je fais une petite remarque pour vous dire que Paul n'a jamais été sans Église. Il faisait partie de l'Église d'Antioche. Et il était envoyé par l'Église d'Antioche. Lorsqu'il écrit, il n'est jamais tout seul. Il a toujours avec lui un collègue dans le service. Ça peut être Timothée, ça peut être Silas, ça peut être quelqu'un d'autre. Il ne se présente jamais seul. Ce n'est pas un électron libre. Et quand il revient de voyage, il rend des comptes. Et il dit, voici ce qu'on a fait. Et c'est l'apôtre Paul. On va dire quand même. Non, il est soumis aux autorités que Dieu a placées, c'est-à-dire c'est son Église. Ce n'est pas son œuvre à lui, c'est l'œuvre de Christ. Et comme on est plusieurs à le service, eh bien, on se rend des comptes mutuellement. Et même, il ira jusqu'à Jérusalem pour présenter l'évangile qu'il prêchait aux païens pour dire « Pierre, Jacques, Jean, vous êtes d'accord avec ce que je prêche ?» Ils diront « Mais bien sûr, on te donne la main d'association. Toi, tu iras vers les païens, nous, on ira vers les juifs. Et puis, ensemble, on va travailler pour que le royaume de Dieu s'étende. Alléluia, gloire au Seigneur. » Mais il n'a jamais été toujours travaillant dans le cadre de l'Église. Le but de l'Église, Matthieu 5, 14, c'est que nous soyons la lumière du monde. Et nous avons compris que ça, c'est le but de l'Église. C'est le but de l'Église. Que dans cette génération, dans cette ville de Montpellier, dans ce quartier de la Mosson, il y ait des hommes et des femmes qui sont l'Église, de Christ ici et qui travaillent à faire connaître le nom de Jésus. Mais ce but, qui est pluriel, qui est commun, pardon, c'est aussi un but qui est singulier. C'est comme dans un corps humain. Et Paul se servira de cette image. L'Église, c'est comme un corps, mais un corps a plusieurs membres. Je voudrais vous poser cette question, mes frères et sœurs. Où est-ce que le Seigneur t'envoie ? Quelle place tu as dans le corps ? Mon vœu le plus cher, c'est que chacun d'entre vous, vous puissiez dire « Je sers le Seigneur ». Quand je dis ça, je ne suis pas en train de déraisonner. Je reprends mes notes parce que encore ce matin, j'en étais rempli. Mais dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, allez, on va y aller. Colossiens, chapitre 3, verset 13, il nous est dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » Alléluia. Et on lit la suite. Alors, est-ce que c'est ça ? Supportez-vous, voilà. Alors, attendez. Oui, mais supportez-vous aussi les uns les autres, hein. Gloire à Dieu. Alors, oui, voilà, pardon, verset 23. Pardon, c'est 3:23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tout faire. Il ne pouvait pas être partout. Lui, son appel, c'était prêcher la parole, l'enseignement, se tenir dans la prière, intercéder, être renouvelé dans la prière pour avoir la puissance pour prêcher eh bien, la parole de Dieu. Et en même temps, alors il était pris dans des tâches tout à fait nobles, mais il se dispersait parce qu'il bah, allait visiter, ou plutôt il organisait la distribution de la nourriture pour les veuves, etc. Et au bout d'un moment, il a été dépassé par la tâche. Il dit, mais on ne peut plus continuer comme ça. Et il dira, mais il faut choisir au milieu de nous sept personnes remplies du Saint-Esprit, plein de foi, que Dieu a destinées à ce ministère et en avant. Ils serviront, ils feront ce travail et nous, on reprendra ce qui est une priorité, ce à quoi Dieu nous a appelés. Servez Christ le Seigneur. Il y a des serviteurs de la parole. On a un frère en formation. On a des anciens. On a des frères qui ont à cœur de faire découvrir l'Évangile, que ce soit dans la rue, leur témoignage, le stand, prospectus. Il y a du social dans l'Église. Il y a les enfants, il y a les ados, il y a la jeunesse, il y a la louange, il y a des musiciens. Certains frères et sœurs du conseil d'administration m'ont fait part d'une certaine souffrance. Emmanuel, quand tu n'es pas là le mardi soir à la réunion, il n'y a pas de musiciens. Nous, ça nous gêne parce que toi, quand tu es là, tu conduis, tu joues de la guitare, tu chantes. Mais quand même, comment ça se fait qu'il n'y a pas un frère, une sœur qui est là pour nous accompagner, guitare, piano ? Servez Christ le Seigneur. Comprenons que s'il manque de ses organes, il va manquer quelque chose au but que Dieu a donné à son Église d'être la lumière du monde. Service de ménage. Ça s'appelle... Tout ça, ça s'appelle être des diacres. Être des diacres. Dans 1 Timothée, au chapitre 3 et au verset 13, l'apôtre Paul parle de cela. Et il dira concernant celles et ceux qui n'ont pas le ministère de la prédication ou quoi que ce soit, ils disent ceci, mais ceux qui remplissent convenablement leur ministère, leur service, d'ailleurs le mot ministère, il faudrait peut-être l'oublier, c'est le service, diaconeo, hein, c'est ça hein. Et il nous est dit ceci, s'acquiert un rang honorable et une grande assurance dans la foi. Vous savez, il y a au milieu de nous et dans d'autres assemblées, mais des frères et sœurs que vous voyez prendre la serpillière, mais il y a un témoignage, une persévérance qui est associée. Elle aime le Seigneur, il aime le Seigneur parce qu'il veut que ce local où les frères et l'Église va se réunir, ça soit propre. Alléluia. Mais c'est aimer l'œuvre de Dieu, ça. Ils ne le font pas pour les hommes, ils ne le font pas pour eux-mêmes. Ils auraient peut-être le loisir de faire tout à fait autre chose. Mais ils le font pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vous pose cette question, mes frères et sœurs. Où est-ce que le Saint-Esprit vous envoie dans cette œuvre merveilleuse, le salut du monde. Je parlerai prochainement, parce que je veux m'entourer de conseils, conseil d'administration, conseil spirituel, mais je voudrais organiser dans l'Église des services afin que chacun d'entre vous puissiez dire « Moi, je sers le Seigneur. » Alléluia ! Je sers le Seigneur. Le Saint-Esprit me conduit. Ça sera peut-être pour faire des sandwichs. Ça sera peut-être pour alimenter le stand biblique, tamponné. Ça sera peut-être pour faire du ménage. Peut-être dans la communication. Moi, j'ai un désir, c'est qu'on réactive aussi cette chaîne YouTube et qu'on puisse faire des petites vidéos courtes chaque semaine et puis que vous puissiez vous en servir, les envoyer, des petits messages courts d'évangélisation, envoyer à vos amis, etc. Ce sont des formes, bien sûr, actuelles et nouvelles. Mais que vous puissiez dire, Seigneur, j'ai compris que tu veux me conduire, Seigneur, dans le cadre de l'Église. Non pas ce que j'ai choisi de faire, mais là où toi, Seigneur, tu m'appelles. Là, ce qui résonne dans mon cœur. Je voudrais lire avec vous, pardonnez-moi par avance, si ce texte produit en vous une forme de culpabilisation, mais l'accusateur, c'est le diable. Alors, ce n'est pas de la culpabilisation, mais pour faire naître une conviction qui vient faire naître en vous une responsabilisation. Il y a beaucoup de sions. Hein. Jacques 4, 17. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Vous avez vu tout à l'heure ce que je vous ai dit ? Ne pas atteindre le but, c'est ça le péché. C'est ne pas atteindre le but. Jacques 4, 17, vous l'avez ? Je le relis. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, mais il manque la cible, il commet un péché. » Je me souviens de Jésus dans le jardin de Gethsémané. « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Peut-être que ça va vous en coûter, peut-être que ça va prendre sur vos loisirs, peut-être que ça va prendre sur des sorties, j'en sais rien. Mais si vous servez le Seigneur, forcément, il y aura un sacrifice. Si vous êtes sauvé, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice. On n'est pas sauvé par nos sacrifices, mais quand on veut marcher avec le Seigneur, il y a des sacrifices. Et l'apôtre Paul dira même, « Mais moi, j'ajoute aux souffrances de Christ ce qui manque pour que, là, présentement, eh bien, des hommes et des femmes soient sauvés. Alléluia !» Et on comprend que si je veux que mes enfants soient sauvés, il faut que je passe du temps dans la prière. Il faut que devant le Seigneur, je me tienne pour qu'il voit en moi eh bien, quelqu'un, mais avec ses imperfections, mais que tu as sauvé par grâce, alléluia, et qui me tient debout par sa grâce, alléluia, amen, oui ou non ? On comprend que dans ce monde, eh bien, dans ce quartier où il y a des musulmans, si je veux eh bien, que eh bien, certains osent franchir le seuil de cette porte, eh bien, il faut que je manifeste de l'affection, de l'amour, de la tendresse à leur égard. Ils ont besoin d'être aimés, alléluia, alléluia. Et nous avons besoin de tout cela. Alors, un but, un objectif dans la main du Seigneur, alléluia. Il y a quand même deux conditions que je donne. Deux conditions qui sont quand même incontournables, c'est que pour servir le Seigneur dans l'Église, il faut, un, être baptisé, engagé, c'est ça l'engagement d'une bonne conscience, et deux, avoir un bon témoignage. Ce sont les deux choses essentielles. Parce que si on n'est pas engagé avec le Seigneur, c'est un engagement à 100%. Hein. Et si tu n'as pas un bon témoignage, mais tu vas décrédibiliser la cause que tu sers. Voilà. Et donc, j'appelle peut-être des amis qui ont à cœur de servir le Seigneur, mais de mettre de l'ordre dans leur vie afin que le Seigneur puisse les servir, parce que le Saint-Esprit est saint. Alléluia. J'aborde aussi un autre point, ce point de la consécration. Servir Christ, servir Christ. Je voudrais juste, vous ne me répondez pas, mais vous réfléchissez dans votre cœur. Comment vous traitez votre famille, votre travail, vos affaires, vos vacances ? Vous y passez du temps ? Oui ou non ? Récemment, on a fait un beau voyage. J'ai eu 50 ans et j'ai pu partir avec la famille. Vous avez chanté, prié pour moi, hein, Stéphanie, hein ? Et je suis parti, on a fait un beau voyage en Grèce. Mais j'ai dû réserver, j'ai dû préparer, j'y ai passé du temps, mon ami, hein. J'y ai passé du temps. Et location de ceci, de cela. Et comment on organise ça? Est-ce que... Allez, avec moi, ça va être vite fait. Hein. Tac, 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 tac. Non. Seigneur, c'est toi que je sers. Ça demande de la consécration. Ça demande un enthousiasme, une joie. Et vous savez ce qui se passe? Moi, ce que je remarque dans l'exercice du service de Dieu, c'est que quand on est conduit par le Saint-Esprit, mais on est renouvelé, c'est comme un salaire, par la joie que nous avons de servir le Seigneur et des résultats. On dit, Seigneur, c'est merveilleux ce que tu as fait, mais alors je voudrais encore vivre encore. Alléluia, je veux vivre, je veux encore des baptêmes, encore des conversions. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, alléluia. Il faudrait que l'Église, je vais employer un mot du monde, ça soit comme une entreprise, mais alors vraiment c'est comme... Alors, il n'y a pas de logique comptable. Hein. Mais lorsque, avant de servir le Seigneur, je travaillais dans une boîte qui était où tout le monde voulait bosser. On était dans une région où c'était le cognac, c'était l'industrie de luxe. Nos salaires étaient surévalués. En réalité, je voudrais même vous dire, on gagnait trop par rapport au travail qu'on faisait. Et alors, certains se disent, j'aimerais bien y bosser. Voilà. Et les horaires, ce n'était pas pénible. Les supérieurs, ils n'exigeaient pas de nous un rendement. Enfin, il fallait bosser quand même. Il fallait bosser. Mais je vous assure que tout le monde voulait bosser là. Vous ne croyez pas que l'Église, c'est comme ça. Excuse-moi, Seigneur. On a un patron formidable. Alléluia. Il y a une ambiance quand on le sert. Gloire à Dieu, alléluia. Et puis Seigneur, les bénédictions que tu nous donnes, mais c'est du bonheur, alléluia. Mais on en redemande, alléluia, on veut te servir, amen. Et que le monde puisse voir cela au travers de nous. Je termine complètement. Le but que le Seigneur veut atteindre dans ta vie. Je reviens à la chambre haute. Tout le monde a peur. Jésus vient, il les rassure. Il propose son plan. Il souffle la paix. Il les envoie, mais au milieu d'eux, vous savez qu'il y a quelqu'un quand même, il n'est pas prêt à être envoyé. Vous connaissez tous son nom. Ça rumine dans son cœur, enfin ça rumine. Il ne peut pas se sentir bien. Quand tous t'abandonneraient, Seigneur, moi, je ne t'abandonnerai pas. Tous ceux-là, tu vois, ils peuvent t'abandonner, mais moi, monsieur. Vous savez ce qui s'est passé, hein ? Reniement, 3 fois. Lui, il a besoin de passer par la case restauration. C'est ce qui va se faire. Au bord du lac de Galilée. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? C'est plus le même profil, là. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. C'est un peu ce que nous a dit François tout à l'heure, je crois. Hein. Je lui ai tout dit au Seigneur. Ce que je suis. L'homme véritable. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Paix mes brebis. Vous connaissez la suite? 3 fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et à l'issue de ce moment où le Seigneur a fait cuire des pains et des poissons, où ils se sont restaurés, eh bien, Pierre, il est rétabli, il est reconstruit, il est renouvelé, et de telle sorte que le Seigneur lui dira, toi, suis-moi. Et on sait qu'il va accomplir son service même à la fin dans certaines souffrances, mais je voudrais peut-être dire à quelqu'un qui reçoit cet appel de Dieu à le servir, à s'engager, et je n'ai pas dit que cet appel de Dieu, c'était forcément devenir un pasteur ou quoi que ce soit, mais être un membre actif de l'Église, servir Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu as besoin d'être restauré? Est-ce que tu as besoin d'être pardonné? C'est le moment. C'est le moment de dire Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin d'être reconduit, j'ai besoin d'être reconstruit, reconstruite, de remettre de l'ordre dans ma vie, dans mes pensées, pour te suivre tel que tu le veux, afin que ce ne soit pas mes pensées, le monde, des influences, des tentations, mais que ce soit le Saint-Esprit, et que je ne rate pas ma vie. C'est assez d'avoir manqué des années, des mois peut-être, des années, mais je veux réussir ma vie avec toi, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on peut prier le Seigneur quelques secondes? Voilà, on va terminer ces moments en rendant grâce au Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta bonne parole, Seigneur. Et Seigneur, c'est une joie extraordinaire que de te servir. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, que Tu nous appelles tous à être des serviteurs de Dieu, des servantes de l'Éternel. Et Seigneur, lorsque je lis ta parole, Seigneur, je vois, Seigneur Anne, la maman de Samuel, servante de l'Éternel, je vois cette jeune femme, Marie, Seigneur, oubliée à Nazareth, mais toi, tu ne l'avais pas oubliée, Seigneur, et tu as fait d'elle une servante. Alléluia. Seigneur, je vois de ces hommes, de ces femmes, Seigneur mon Dieu, qui ne se sont pas regardés tels qu'ils étaient avec leurs limitations, mais qui ont regardé l'appel de Dieu et l'œuvre de Dieu qui était là devant eux. Seigneur Jésus, je te prie afin que ce matin, Seigneur, que ton Saint-Esprit lève des ouvriers, des ouvrières. Et au-delà de cela, un esprit de service. Un esprit de service, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, s'il y avait besoin, change les mentalités. Change les mentalités. Seigneur, alléluia. Peut-être quelqu'un a-t-il besoin de dire, Seigneur, je veux te servir. Peut-être tu t'es jamais posé la question. Tu as simplement dit, mais ce qui est important, c'est que je sois sauvé, c'est que ma vie soit en règle, que je marche avec le Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu as posé cette question, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Seigneur, être moniteur, monitrice, le GIB, les ados. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, mon Dieu, la partie technique de l'Église. Il y a des manuels, il y a des gens qui ont des mains en or au milieu de nous. Mettez-les au service du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelques secondes là sous le regard de Jésus. Alléluia. Et peut-être quelqu'un qui a besoin de tout remettre à plat devant le Seigneur pour dire, Seigneur, maintenant je ne veux plus être conduit par mes pensées, mais je veux être conduit par ton Saint-Esprit. Je veux que ce soit ton Saint-Esprit. On va terminer sur ces moments, mais peut-être que quelqu'un voudrait que l'on prie pour lui, pour elle. Quelqu'un qui dit, mais voilà, je voudrais que ma vie soit conduite par le Saint-Esprit. Et non pas pour mes pensées. J'ai besoin qu'on prie pour moi parce que j'ai des décisions à prendre. J'ai compris que je dois me séparer de certaines choses. Tant que je reste dans cette situation qui n'est pas en règle devant Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit ma vie, c'est autre chose. Alors Seigneur, maintenant je veux que ce soit toi qui conduise ma vie. Alléluia. Et si vous voulez qu'on prie pour vous, si vous voulez prendre cette décision, bien vous pouvez lever votre main en disant, moi, je veux suivre le Seigneur. Oui, il y a des mains qui se lèvent. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Il y a des combats dans les cœurs. Il y a des combats. Servir le Seigneur, c'est se lever. C'est prendre position pour Jésus dans un monde qu'il a rejeté. Il faut être courageux. Et le Seigneur voit votre cœur. Alléluia. Il y a même des jeunes, des ados qui peuvent dire, oui, mais moi je veux suivre le Seigneur, je veux faire la différence. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu, nous sommes sous ton regard. Et je te remercie pour ces moments. Seigneur, parce que, Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui agit. Seigneur, nos motivations, nous ne les voulons pas charnelles, mais spirituelles. Être conduits par le Saint-Esprit pour servir le royaume de Dieu, pour servir le Seigneur Christ, Jésus, alléluia. Et Seigneur, que cette église ici à la Mosson soit reconnue, Seigneur, comme Seigneur, le rassemblement de celles et ceux qui t'ont racheté et qui brille comme une lumière dans la nuit, alléluia, pour faire connaître les bontés de l'Éternel. Et que plusieurs puissent dire, mais Seigneur, si tu l'as fait pour eux, tu es capable de le faire pour moi. Alléluia. Seigneur, dans cette société, dans ce monde, Seigneur, où nous nous trouvons, où il y a le matérialisme, où il y a la confusion, où il y a l'homosexualité, Seigneur, toutes sortes de travers. Seigneur, tu nous envoies pour être la lumière du monde. Seigneur, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit. L'accusateur, c'est Satan. Mais Seigneur mon Dieu, on est là pour amener par la grâce de ton Saint-Esprit, Seigneur, à des convictions de péché, de justice et de jugement, dans le nom de Jésus, à la révélation de Christ. Alors bénis ces bien-aimés qui veulent, Seigneur, entrer, Seigneur, dans ce mouvement de l'Esprit. Seigneur, à toi toute la gloire, nous te remercions et nous te bénissons. Que ton nom soit loué et glorifié, Seigneur. Amen, amen, amen.